nous vous présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, la troisième époque de Violence et Crépuscule, L'élu. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre. Musique originale de L'élu, Lionel Morzetti. Et, un jour, il réfléchit. Qu'est-ce qui pourrait lui prouver que je l'aime? Je vais donner des cadeaux, une bonne situation. Je lui suis fidèle. Que veut-elle de plus? Sexuellement, je lui apporte du plaisir. Je ne suis pas laid, jeune, encore. J'ai une bonne situation. Il y a des milliers de femmes qui aimerait avoir un homme comme moi. Elle est trop gâtée. C'est pour ça. Un après-midi, qu'il passe devant un magasin où il y a des robes de mariée, il se dit « Voilà, c'est ça, elle veut, elle est comme toutes les femmes, une midinette, c'est ça, elle veut se marier. » Il est heureux, il a enfin trouvé ce qui lui manquait à cette fille. Oui, c'est la chose qu'elle n'a pas, et elle ne s'est jamais mariée, une fille ne rêve toujours à ce genre de choses. C'est pas comme pour nous, les hommes. Pour nous, c'était qu'une formalité. Mais pour elle, c'est autre chose. Le soir, il invite dans un salon de thé. Une fois qu'il a commandé leur thé et gâteau, il lui dit « Je sais ce que tu attends de moi. C'est ce que je te demande en mariage. »
C'est quand même malheureux. Et les mères qui regardent ça avec un bon sourire.
C'est ce que je vois.
C'est pas nouveau, hein.
Tu crois?
T'as qu'à lire.
Tu vois, les femmes.
C'est vrai, tu n'es pas les écrivains juifs.
Le mariage, pour vous, ça démontre que l'on vous aime, respecte, et que l'on est prêt à vous rester fidèle.
Vous ne dansez pas?
Alors, pour prouver que je t'aime et que je tiens à toi, je demande ta main. Elle lui dit, mais tu es déjà mariée. Il n'y pensait plus et lui dit, je peux divorcer. » Elle lui dit, « Ta femme est malade. Divorcer dans ces conditions, c'est très déshonorant. Et puis, on va nous dire des choses. On va dire que tu es encore un criminel. Que c'est criminel de laisser ta femme malade sans défense. » Il lui dit,
mais
elle aura une bonne pension. Et ce sera comme maintenant, avec son infirmière. Elle lui dit, les autres ne savent pas ça. Nous verrons que le côté officiel, c'est-à-dire que tu t'es séparé de ta femme malade. Ils ne tiendront pas compte qu'elle vivait seule bien avant votre séparation, avant ton divorce. Non, ils verront que le divorce
est
que tu te maries avec ta maîtresse, parce que je suis ta maîtresse pour tout le monde. Il lui dit, alors que faire? Elle lui répond, attendons quelque temps qu'elle meure. Il lui dit, ce sera long. Elle lui dit, il faut attendre.
Il est vrai que pour les femmes et la politique, les femmes surtout. Tu sais comment il est mort? Il est retourné en Italie pendant la guerre, au moment où c'était le plus dangereux pour lui. Il disait que son... Et puis il est tombé amoureux d'une Milanaise. Il habitait chez elle, et c'est comme ça qu'il s'est fait prendre.
Depuis qu'il a eu l'idée de se marier avec elle, il est comme une femme, ne pense qu'au mariage. Il veut se marier avec elle. Il habite rue Saint-Honoré, un bel immeuble de 5 étages du siècle dernier. Il est au 3e étage. Il n'a qu'une seule pièce meublée Louis XV, tapisserie claire, boiserie blanche, seul parquet. Entrée grand couloir, à droite bureau, à gauche salon, à côté salle à manger. Chaque pièce a une cheminée de pierre et double fenêtre. En face, deux chambres avec leur salle de bain. Et le couloir tourne pour aller au service avec la chambre de la bonne, la cuisine, le cellier, la lingerie. Une porte de service pour sortir de l'appartement. Cordex a eu cet appartement de son père, qui était marchand en soierie. Sa femme se trouve dans la deuxième chambre, qui est transformée en une chambre d'hôpital. Lit spécial qui se soulève. Il y a des barres pour que la femme puisse se soulever, se relever. Une table de nuit avec réveil et plein de médicaments. Une table roulante blanche, avec aussi des médicaments. Une armoire en chêne, deux chaises et un petit bureau en chêne aussi. Nous vous en avons décrit tout ça avant que M. Cordex ne vienne pour pouvoir être tranquille. après avoir accompagné Judith jusqu'à chez elle, mécontent, il va sonner à la porte de son appartement. Petite maigre, à cheveux gris.
Bonjour, monsieur.
Bonjour.
Allez, là. Ferme la porte. Et lui dit.
J'ai déjà mangé. Vous pouvez aller vous coucher.
Bien, monsieur. Et monsieur va prendre un bain?
Non, je prendrai une douche.
Elle s'en retourne furieuse. Elle se dit que c'est toujours la même chose, qu'il lui fait marquer la fin de son film. Il pourrait bien ouvrir tout de même, il a les clés. Lui, il va dans la chambre de sa femme. Frappe. Et entre. Elle est au lit, assise dans son lit. La tête repose sur des épaisseurs de pelochon. Elle a une énorme tête avec plein de bosses, de trous partout. La bouche tordue, la peau comme de l'eczéma, les cheveux gris frisés au-dessus du crâne. Un éléphant man en femme. Elle porte une chemise de nuit. Il va vers elle. Sa peau craquelée.
Bonjour, t'as passé une bonne journée? Elle lui dit.
Comment veux-tu que je passe une bonne journée?
Il lui dit.
Je sais pas, moi. T'aurais pu parler de choses agréables avec l'infirmière.
Elle lui dit, et de quoi d'intéressant? Rien ne m'intéresse. J'ai goût à rien. J'aimerais en finir avec cette mascarade.
Mais non. La vie peut encore t'apporter des choses.
Elle lui dit, tu n'y crois pas. Tu es comme moi. Enchaîné à cette maladie.
Il lui dit, oui, je suis enchaîné. Je le fais par amour pour toi.
Tu m'as accepté de vivre avec toi que le jour où tu as su que tu étais perdu pour les autres.
Elle lui dit,
tu le regrettes.
Il lui dit, il m'arrive de me dire que tu as mal agi vis-à-vis de moi. Je pense avec amertume que lorsque tu étais belle, tu m'as refusé et que j'ai fait, et qu'une fois malade, tu m'as voulu parce que tu savais que j'étais le seul à te vouloir. Mais maintenant que la maladie s'est emparée de toi, tu m'es devenu un fardeau.
Tu vois, je te suis devenu un fardeau. Jusqu'à la fin de tes jours, tu as voulu la plus belle, eh bien, tu l'as eue.
Il lui dit, oui, mais tu n'es pas celle que j'ai aimée. Elle lui demande,
c'est vrai que tu as une maîtresse?
Il lui dit, oui, bien sûr, comment veux-tu? Elle lui demande,
merci de ne pas me mentir. Elle est belle.
Plus belle que toi, et même avant. Justement, je voudrais se divorcer. Elle lui dit,
jamais, jamais. Tu le sais bien. Mais moi aussi, j'ai besoin de certaines choses.
Il lui dit, c'est impossible. Elle lui dit,
on le fait bien avec une pute.
Il lui dit, Les prostituées sont des femmes normales.
Tu es mon mari.
Oui, mais dans certaines circonstances, c'est normal que nous n'ayons rien.
Je ne supporterais même pas c'est de te donner un baiser.
Elle soupire et lui dit.
Eh bien, tant pis.
Il lui dit. Divorçons. Je te donnerai une bonne pension.
Non, tu aides moi. Je tiens à toi comme tu as tenu à moi lorsque j'étais belle et jeune. Maintenant, c'est le contraire. C'est toi qui es beau et moi moche.
Il lui crie.
Tu es moche et plus que tu me voyais laid. Et il sort de la chambre. Il va dans la sienne.
Se déshabille. Va mettre son peignoir. Et va dans la salle de bain. Dans son lit, ne peut s'empêcher de penser à elle. Il se dit, ce n'est pas possible que je sois obligé de vivre avec elle comme ça. Non, il faut que je m'en débarrasse. Mais comment ? Le lendemain, dans son bureau, son téléphone.
Allô, dites à mademoiselle Lair de venir me voir. Merci.
Un quart d'heure plus tard, l'on sonne à sa porte. Il appuie sur le bouton vert.
La porte s'ouvre. C'est elle. Elle va vers lui. Elle lui demande. Tu m'as demandé ? Oui. J'ai décidé, c'est de me débarrasser d'elle. Je vais la tuer pour être libre. Après, plus personne ne pourra rien nous dire.
Elle lui dit, quand tu l'auras fait, tu me le diras.
Je ne te crois pas. Tu fais des choses, tu dis des choses comme ça. Il faut être un homme pour le faire.
Il lui dit, je le ferai.
Et comment le feras-tu ?
Il lui dit, je verrai.
Elle s'en retourne. Il lui crie, « Je te le dirai !» Elle ouvre la porte et s'en va.
Une semaine plus tard, il veut la voir. elle refuse de venir le voir. Elle ne veut pas le voir pendant une semaine. Il attend la sortie du siège. Elle se dérobe. La suit avec sa voiture. Elle prend un taxi. La convoque dans ce bureau. Elle fait dire qu'elle est débordée. Il se dit, je pourrais la renvoyer, mais ne le fait pas. Le soir, en entrant chez lui,
il ouvre la bonne.
Il n'y a pas vos clés, monsieur?
Si, j'ai oublié que je les avais.
Pourtant, monsieur les a dans les mains. Vous n'allez pas voir votre femme?
Il lui dit, non, pourquoi? Elle est morte. Et il s'éloigne.
Un matin, dans son bureau, il se dit, puisqu'il ne peut pas la voir, il va lui écrire et lui dire ce qu'il souhaite faire. Il lui écrit cette lettre. Il lui dit son amour, sa fureur, qu'elle ne veut plus le voir, qu'il pense à elle constamment et qu'il veut lui prouver qu'il l'aime vraiment, en faisant ce qu'il lui a promis. Il a bien réfléchi de ce qu'il veut, de ce qu'il veut faire un crime, et que ce ne sera pas un crime, puisque sa femme n'a plus goût à la vie, et que de toute façon, elle est condamnée. Donc, il va l'aider à mettre fin à ses douleurs, en l'étouffant tout simplement. Ce sera simple. Dans la nuit, lorsqu'elle dormira, il ira dans sa chambre, lui soulèvera tout doucement la tête, lui enlèvera ses pelochons, la recouchera. Le poids, la déformation de la tête va l'étouffer, l'asphyxier. Après, remontera la tête, la remettra sur les pelochons et ira se coucher. Elle sera morte dans son sommeil comme ça. Ça arrive souvent dans ce genre de maladie.
8 mois plus tard, on se marie. Tu vois comme je t'aime et pense à toi. Je te fais une belle preuve d'amour en faisant cela. Alors, voyons-nous. J'ai follement envie de te voir. Il signe et met la lettre dans une enveloppe. Il sonne à sa secrétaire, on frappe à la porte, entrez, elle entre. Entre la secrétaire, il lui dit, allez donner cette lettre à mademoiselle Lair, en main propre. Bien monsieur. Elle prend la lettre et elle ressort. La secrétaire est une grande jeune fille blonde dans les 25 ans, taille moyenne. Elle passe devant l'hôtesse et lui dit « Il y a de l'orage dans l'air. » Il s'envoie des mots. L'hôtesse lui dit « Ça sent la rupture. » Il va bientôt en avoir assez. Il va en avoir assez d'elle. Le secrétaire lui dit. Place aux autres. L'hôtesse lui dit. Oui, pas toujours à la même. Les autres aussi ont droit à leur chance. Et la secrétaire va prendre l'ascenseur pour aller à l'étage en dessous pour porter la lettre à Judith. Elle aimerait bien s'y lire la lettre, mais elle est cachetée. Lorsqu'elle passe le couloir, on la voit. Elle dit « Je suis la messagère de l'amour !» Les filles rient. Elle va frapper à la porte de Judith. « Entrez !» Elle entre. « Bonjour madame, voici le courrier. » Elle s'approche du bureau. Et donne à Judith la lettre. « Merci !» Elle la quitte. Judith ouvre la lettre. Et la lit. Une fois qu'elle l'a lue, elle se dit. Décidément, il était plus intelligent lorsqu'il n'était pas amoureux. Pauvre Benoît. Benoît Bonnet. Elle met la lettre dans son enveloppe et dans son sac. En fin de matinée, le téléphone sonne. Elle prend la communication.
Allô? Oui?
C'est moi. Tu as lu ma lettre?
Elle lui dit. Oui.
Il lui dit. On se voit alors?
Elle lui dit. Je ne vois pas pourquoi. Rien n'a changé, à part une lettre. Mais une lettre, ce n'est que du papier. Je te verrai que lorsque tu seras capable de me prouver que tu m'aimes. Mais prends ton temps. Je ne suis pas prête. Plus tard, attends.
Il lui dit, bon, j'attendrai.
Elle lui dit, d'ici là, on ne se voit plus.
Et elle raccroche. Elle se dit,
ce con, il a hâte d'agir. Il faut que je fasse vite.
Et elle réfléchit.
Le temps passe.
Voir, en sortant du siège, elle entre dans sa voiture. Est garée devant le siège et attend.
Elle voit sortir Monsieur le Duc, Jean, le directeur des relations humaines. Il marche à pied. Elle met sa voiture en route. Heureusement qu'il y a peu de circulation. D'ailleurs, il n'y en a presque plus. Elle le voit entrer dans un magasin de sport. Elle arrête sa voiture. Sort de voiture et va rentrer dans le magasin. C'est un grand magasin, moquette au sol, banque de présentation avec vendeurs, etc. Très chic et cher. Elle le suit. Il choisit une parka. Elle va vers lui. Fait semblant elle aussi d'en choisir un. Ils se cognent tous les deux. Il lui dit « Oh, pardon !» Il la reconnaît. « Vous êtes mademoiselle Laure Judith ?» Elle lui dit « Oui, je suis le duc, relations humaines. Vous me reconnaissez ?»« Oh, oui !» Il lui dit « Vous choisissez un parka, vous aussi ?» Elle lui dit « Oh, oui !» Il lui dit « Prenez le blanc, il vous ira très bien. Moi, je prends le rouge. » Alors qu'elle prend le parka blanc en se demandant ce qu'elle va en faire. Mais enfin, ils vont vers la caisse. Il donne sa carte. Le vendeur la prend. « Pardon, j'aurais dû vous faire passer avant. » Elle lui dit « J'ai le temps. » Le vendeur a posé la carte sur la table et dépose son parka sur la table. Le vendeur lui donne sa carte à elle. Elle le lui donne. Il lui demande sa carte à elle, elle le lui donne. Il la met sur l'écran et la lui rend. Elle prend le paquet, le parka et la carte de le duc qui était dessus. Ils sortent avec leur sac en papier où il y a leur parka. Je vous accompagne. Elle lui dit, non, c'est ma voiture. Bien, alors à bientôt. Et s'éloigne. Vite, elle va rentrer dans sa voiture. Elle la met en marche.
fois chez elle, elle va vite à son bureau. S'assoit à son bureau et met l'ordinateur en marche. Elle prend un papier pour tout noter. Puis met la carte de Leduc sur l'écran. Demande son adresse. Son âge, son salaire, situation de famille. Elle note tout. Il habite Bois-la-Reine, une petite maison. Son salaire est le double du sien. Il est veuf, vit avec son fils de 15 ans, Laurent. Maintenant, elle regarde son compte, ses entrées et ses dépenses, pour voir ce qu'il aime. Elle voit qu'il dépense beaucoup pour la montagne, course en montagne, accessoires, vêtements. Puis, il aime beaucoup la musique, les livres. Va au cinéma. Change de voiture tous les 3 ans. Il est propriétaire. Aime manger simplement. Légumes, fromage, poisson, glace. Alcool modérément. Son fils a un compte à lui. Il lui reste 5000 francs pour ses besoins. Il a une femme de ménage. Pas de grave maladie. Ses impôts sont élevés. Elle voit que dans les maladies, les dépenses maladies, il y a surtout le dentiste. Son fils, lui non plus, tout semble normal. Les bons élèves, Henri IV. Il n'y a pas de souci, pas de vice. Elle voit qu'il a loué pour la semaine prochaine un chalet à Courchevel à 1850, le Bel Air, pour une semaine. Elle regarde comment il vote. À droite. Ne pratique pas la religion. Sa femme est morte il y a 10 ans d'un accident d'avion, Paris-New York. Elle réfléchit un moment et se dit « J'ai tout noté. Alors vite, elle prend la carte et sort de l'appartement. prend sa voiture.
Fonce. Elle sort de voiture et entre dans le vieil immeuble. Elle va au fond de l'allée. Pour ouvrir la porte qui mène à la cour. Et là, elle va vers la maison. Elle sonne. Lui ouvre le domestique. Elle lui dit. Oui. Elle lui dit. C'est urgent. Il faut me faire une copie de cette carte. Mais vite, s'il s'en aperçoit, elle ne voudra plus rien. Il va téléphoner aux cartes qui vont leur faire une autre avec un autre hôte. Et ce sera fini pour nous. Le domestique lui dit. Entrez. Elle entre. Il a fermé la porte. Elle lui donne la carte. Il prend la carte et il monte à l'étage. Elle attend. Elle se dit, mon Dieu, pourvu que ce ne soit pas trop tard. Est-ce que c'est long pour faire une copie? Le domestique descend. Elle lui dit, c'est fait?
Oui.
Elle fait, ouf, c'est rapide. Il lui dit,
nous avons des hommes compétents.
Fois en bas, il donne la carte.
Merci. Je me sauve.
Et elle le quitte.
Au revoir.
Elle suit la cour. Entre dans l'allée. Sort de l'allée. Là, elle va vers sa voiture pour entrer dans la voiture. Une fois à Bourg-la-Reine, elle regarde la Grèce et essaye de voir sur la carte. Elle trouve la rue et la maison. La rue est une petite rue calme. Il y a des villas. La maison de Monsieur le Duc est plus grande que les autres. C'est une villa du siècle dernier, au fond d'un parc, entourée d'un mur.
Elle sort de voiture et sonne à l'interphone. Une voix lui dit « Oui ?» Elle lui dit « Bonjour, je suis Laure. J'ai une chose importante à donner à Monsieur le Duc. Attendez, je vais voir. Je suis Mademoiselle Lair. Judith. Bon, oui, je vais voir. » Elle attend quelques secondes. Et la voix lui dit « Vous pouvez entrer. » Elle entend des clics de la porte. Ouvre le portail et entre. Le portail se referme derrière elle. Elle suit le chemin, ou plutôt la voie privée de gravier qui mène jusqu'à la maison. Le parc est assez sombre. Il y a des ombres qui bougent autour d'elle, faisant les branches d'arbres avec leurs feuilles. Elle arrive sur le perron. Dès qu'elle a mis le pied sur le perron, la lumière s'est éclairée. Elle voit. Elle va vers la porte d'entrée. Sonne. La porte s'ouvre sur une femme maigre, chignon gris, bien tiré, robe noire. Elle a un côté revêche. Regarde la fille d'un mauvais œil. Sa tenue et sa beauté ne doivent pas lui plaire. Elle lui dit « Entrez !» Elle entre. Elle ferme la porte. La porte a été fermée d'un coup sec, ce qui l'a fait retourner Judith. Le hall est sombre, on n'y voit presque rien. La bonne lui dit « Suivez-moi !» Elle suit cette femme qui lui fait monter des escaliers en bois qui craque. On n'y voit presque rien. Au premier étage, elles suivent un long couloir sombre, encombré de grosses choses qui semblent être des meubles.
Nous vous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, La troisième époque de Violence et Crépuscule, L'élu. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre, enregistrement CVRP. Musique originale de l'élu, Lionel Morzetti.
La CVRP, Cinéma, Vidéo, Radio Production, vous a présenté une cassette OB.